Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité hors d'Afrique. Ouverture ce vendredi à Buenos Aires, en Argentine, du sommet du G20. L'organisation regroupant les 20 pays les plus riches du monde. Une rencontre qui se tient dans un contexte de tensions politiques et commerciales, alors que l'organisation est le symbole même du libéralisme économique. Abdourahmane Dia.
Le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping vont se rencontrer en marge du sommet de deux jours dans la capitale argentine. Au menu de leur discussion, les tensions commerciales entre Washington et Pékin, quelques jours après que l'administration américaine a annoncé qu'elle allait mettre à exécution sa menace d'ajouter de nouvelles taxes de 200 milliards de dollars sur des produits chinois. Les deux parties espèrent un dégel dans le conflit commercial qui les oppose depuis plusieurs mois, avec des hausses de tarifs de part et d'autre. Les États-Unis ont aussi imposé des taxes additionnelles sur l'acier et l'aluminium en provenance d'Europe. Cette question devrait donc être abordée, mais le président Trump a déjà dénoncé à plusieurs reprises les pratiques commerciales des autres pays jugées défavorables aux États-Unis. Sur le plan diplomatique, l'Ukraine sera au centre des préoccupations. Le président américain Donald Trump a finalement annulé sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, citant la saisie de navires ukrainiens par la Russie.
Afrique maintenant, la lutte contre les djihadistes dans la région du lac Tchad. Les présidents du Tchad, du Nigeria et du Niger, ainsi que le premier ministre du Cameroun, ont demandé à l'issue d'un mini-sommet jeudi à N'Djamena le soutien de la communauté internationale dans la lutte contre Boko Haram. Le point avec Bagassi Koura.
Les présidents Mahamadou Bouhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger, Idriss Déby du Tchad et le premier ministre camerounais Philemon Yang sollicitent le soutien de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation de la région du lac Tchad. À l'issue de leur rencontre à huis clos à N'Djamena, les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde préoccupation face à la recrudescence des attaques et affirment vouloir changer d'approche dans la lutte contre Boko Haram. Ils promettent de multiplier ce type de rencontres et se sont entretenus avec de hauts gradés de la force multinationale mixte qui surveille la région du lac Tchad avec l'aide des comités de vigilance composés de citoyens locaux. Hier, un officier nigérien a déclaré qu'une base militaire proche du lac Tchad a été attaquée mardi par Boko Haram et que les soldats mis en déroute ont perdu 3 hommes à la mi-novembre. La branche qui fait allégeance au groupe État islamique a revendiqué la mort de 118 soldats au Nigeria. Au Cameroun, au moins 29 personnes ont été blessées mercredi dans un attentat suicide à Amchide, dans l'extrême nord, près de la frontière nigériane.
Toujours au Cameroun, poursuite du conflit dans les régions anglophones du pays où des séparatistes armés se battent pour la création d'un État dénommé Ambazonie. Plusieurs ONG de défense des droits humains ont dénoncé hier ce qu'elles qualifient de restriction à la liberté d'expression, représentant un signal inquiétant en ce début de nouveau mandat du président Paul Biya, réélu en octobre. Le point avec Nani Talani.
8 organisations, dont Amnesty International et la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, notent dans un communiqué conjoint qu'au moins 6 journalistes ont été arbitrairement arrêtés ces dernières semaines. Ils sont accusés d'avoir publié des informations critiques à l'endroit des autorités camerounaises sur leur gestion de la crise anglophone. En outre, les ONG signataires réclament l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale sur la disparition forcée depuis début août de Franklin Moua, un défenseur camerounais des droits de l'homme. Au moment de sa disparition, M. Moua était en mission à Kumba, dans la région anglophone du Sud-Ouest, pour documenter des cas de violation des droits humains. Les ONG dénoncent également une instrumentalisation de la loi antiterroriste contre des voix considérées comme dissidentes. Elles demandent sa révision afin de la rendre conforme au droit international. Plus de 700 personnes, militaires et civils confondus, ont déjà perdu la vie dans le conflit dans les zones anglophones et plus de 437 000 personnes ont fui leur domicile.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la campagne pour les élections du 23 décembre est en cours depuis une semaine. Cette campagne n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Mais dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays, l'épidémie de fièvre Ebola continue et son bilan atteint déjà près de 242 morts. Les attaques et enlèvements des rebelles ADF ont également fait encore plus de victimes dans la région. Comment se déroule la campagne électorale à Béni? Idriss Wall a joint sur place notre confrère Nikes Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses.
Ces deux préoccupations qui se sont invitées à la campagne sont toujours là, mais il faut dire que la campagne a démarré effectivement, au moins au niveau des grandes agglomérations. On assiste à des caravanes motorisées, des véhicules avec musique et des chansons qui résonnent pour tel ou tel candidat. Le RCD-KML a ouvert sa matinée politique pour annoncer sa campagne il y a deux jours. Il y a des affiches partout sur des murs. Disons que la campagne a démarré en attendant ces deux inconnus que vous avez cités, Ebola et l'insécurité des ADF.
Comment est-ce qu'elle se déroule? Est-ce qu'il y a une forte mobilisation? Parce que Ebola, quand même, ne va pas toujours avec des rassemblements.
Concernant Ebola, le grand principe est qu'on ne se salue pas les mains, qu'on ne se touche pas. Et les gens sont dans la rue, ils s'y habituent. Donc la campagne se fait sans que les gens s'embrassent, sans que les gens se touchent. Il y a des caravanes, comme je l'ai dit, de la musique, des affiches. Mais il faut dire que la campagne n'a pas encore pris sa vitesse de croisière. Peut-être dans les jours qui viennent, ça sera plus déterminant. Parce que vous savez, chez nous, on attend toujours les derniers jours. On observe en même temps les consignes sur la prévention pour Ebola. Au même moment aussi, il y a la campagne. Mais les gens ne s'embrassent pas, ne se saluent pas par la main. Il y a une salutation gestuelle ici qui se passe, on se donne du coup.
Est-ce que les candidats à l'élection présidentielle comme Martin Fayoulou ou Félix Tshisekedi ou Emmanuel Ramazani Shadary, est-ce qu'ils ont prévu de venir à Béni?
Sur le papier, c'est prévu, ils viendront à Béni. Mais par exemple, pour Shadary, il a des équipes préparées pour tout le monde. Ils ont des équipes, des campagnes qu'ils ont un peu, si vous acceptez le terme, saucissonnées. Et pour Emmanuel Shadary, dans chaque province, le gouverneur est là pour le représenter en attendant qu'il arrive. Par exemple, pour Fayoulou, au niveau de Béni, c'est le RCD-KML qui a lancé la campagne, la caravane, la matinée politique, annonçant aussi le soutien à Martin Fayoulou. Et l'UDPS, on attend encore, parce que vous savez, l'accord a été signé il n'y a pas longtemps. Disons que sur le papier, tous ces candidats viendront. Le Grand Nord qui vaut donc Béni Lubero, c'est presque le 1/10 des électeurs. Je pense qu'ils viendront, mais jusque-là, on n'a pas encore donné de date fixe.
Est-ce que vous pensez qu'avec les rebelles ADF et la présence d'Ebola, les élections vont pouvoir se tenir normalement?
Oh, je ne peux pas être prophète de malheur. Nous allons observer, nous tous, jusqu'à quel niveau on peut organiser les élections. Par exemple, pour la ville et les territoires de Béni, notamment pour la ville de Béni, il y a pratiquement 30% de la population qui s'est déplacée, qui s'est délocalisée, soit pour Goma, soit pour l'Ouganda, soit pour Kinshasa. Il faudra attendre, je ne voudrais pas être le prophète de malheur.
Nikes Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses dans le territoire de Béni, en RDC. Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, une manifestation de l'opposition a été dispersée jeudi par les forces de l'ordre à Conakry. Plusieurs centaines d'opposants guinéens voulaient manifester encore une fois contre les conditions d'installation des conseils municipaux. Le point avec Raïssa Girondin.
Les jeunes manifestants, estimés à quelques centaines par des journalistes, un millier pour les organisateurs, entendaient défiler du grand stade de Conakry au Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale. Malgré l'absence du chef de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, ils étaient déterminés à braver l'interdiction de manifester. Les forces de l'ordre ont alors usé de gaz lacrymogène et érigé des barricades avec les pick-up de la gendarmerie. 4 manifestants ont été légèrement blessés. Après plusieurs mois de contestation des résultats des élections locales du 4 février, un accord avait été conclu en août entre le pouvoir et l'opposition sur la répartition des exécutifs communaux. Début octobre, l'opposition a repris ses journées villes mortes et ses manifestations. Elle accuse le gouvernement de violer cet accord et de corrompre ses élus pour s'assurer le contrôle d'une large majorité des communes du pays.
Pour terminer, en Afrique du Sud, la justice sud-africaine a fixé ce vendredi au 20 mai 2019 la prochaine audience préliminaire au procès de l'ancien président Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans. Dans ce dossier, Jacob Zuma est accusé d'avoir touché pour 260 000 euros au cours actuel de pots de vin de la compagnie française Thales lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque, Jacob Zuma était ministre provincial, puis vice-président du pays. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.